les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, monsieur le professeur Philippe Aquileas, professeur de droit à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay, directeur de l'IDEST et du Master de droit des activités spatiales et des télécommunications, nous dessine les contours du droit de l'espace. 5e épisode. Les risques liés aux activités spatiales.
Chers auditeurs d'Amicus Radio, c'est sur l'extrait du générique d'Alien que je vous retrouve pour ce dernier cours consacré au droit de l'espace. Nous allons parler aujourd'hui des risques liés aux activités spatiales. Ces risques sont multiples. Je voudrais d'abord commencer par les risques auxquels sont soumis les astronautes et qui a justifié l'adoption d'un cadre juridique spécifique. Le traité de l'espace de 1967 précise que les astronautes sont considérés comme les envoyés de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique. En somme, ils explorent cet univers, prennent des risques pour l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle un régime de protection a été adopté, un régime qui a été complété par l'accord sur les astronautes de 1968. Deux règles simples. D'abord, dès lors qu'un astronaute se trouve en situation de détresse, en situation de danger, tous les États qui le peuvent doivent intervenir pour secourir et prêter assistance à cet astronaute, et ce, quelle que soit sa nationalité. Les États doivent également remettre à l'autorité de lancement les astronautes qui ont été recueillis. Ensuite, dans l'espace extra-atmosphérique, tous les astronautes doivent se rendre mutuellement assistance, ici encore, indépendamment de leur nationalité. Deuxième risque lié aux activités spatiales, les risques de dommages causés par les lanceurs et les satellites. Et pour cela, une convention spéciale a été adoptée, la Convention sur la responsabilité pour les dommages causés par les objets spatiaux, signée en 1972. Cette convention place l'État au cœur du dispositif, puisqu'il est prévu que l'État de lancement sera toujours responsable, et ce même si l'opération est menée par une entreprise privée. Alors, qui est l'État de lancement ? L'État de lancement est soit l'État qui lance l'objet spatial, c'est-à-dire l'État qui est responsable du service de lancement, soit l'État qui fait procéder au lancement, c'est-à-dire le client du service de lancement, soit l'État dont le territoire sert au lancement, soit l'État dont les installations servent au lancement. Et la victime peut utiliser n'importe lequel de ces critères pour identifier l'État de lancement. Ce qui place d'ailleurs la France dans une situation particulière, puisque c'est depuis son territoire, depuis la Guyane, que sont lancés la majorité des satellites commerciaux sur l'orbite géostationnaire. Dès lors qu'un satellite est lancé depuis Kourou, depuis le centre spatial guyanais, la France risque d'engager sa responsabilité internationale en cas de dommage. Deux régimes de responsabilité sont prévus. Lorsque le dommage a lieu dans l'espace, c'est un régime de responsabilité pour faute, c'est-à-dire qu'il faut démontrer la faute de l'état de lancement, et ce n'est pas facile car il est difficile de déterminer exactement ce qui se passe dans l'espace. En outre, nous avons très peu de règles concernant le trafic spatial. Donc, même en cas de collision, vous voyez, il sera très compliqué de mettre en œuvre la responsabilité de l'état de lancement. C'est la raison pour laquelle, lorsque le dommage a lieu sur Terre, c'est un autre régime qui a été adopté, c'est celui de la responsabilité objective. C'est-à-dire que la victime n'a pas besoin de démontrer la faute de l'état de lancement. L'état de lancement devra donc réparer le dommage dès lors qu'il aura été établi que le dommage résulte de l'objet qu'il a lancé dans l'espace extra-atmosphérique. Alors, pour identifier l'état de lancement, la Convention sur l'immatriculation, signée en 1975, précise que les États doivent immatriculer les objets qu'ils lancent dans l'espace extra-atmosphérique. Ils doivent d'abord immatriculer l'objet sur un registre national. Ils doivent ensuite transmettre des informations à l'ONU, puisque le secrétaire général des Nations Unies est en charge de la tenue d'un registre international des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier l'état de lancement, les États doivent coopérer, et notamment ceux qui disposent de systèmes de surveillance de l'espace extra-atmosphérique. Sur ce point, les États-Unis sont en avance, puisqu'ils bénéficient d'un système extrêmement performant qui est géré par l'armée. Et c'est un problème, parce qu'on peut considérer qu'en cas de dommage impliquant un satellite américain, l'armée américaine ne divulgue pas les informations nécessaires pour identifier l'origine du dommage. C'est la raison pour laquelle l'Europe cherche à se doter de son propre système de surveillance de l'espace. Les règles de responsabilité sont introduites dans les lois spatiales nationales. Les États doivent donc, sur la base de ces textes, délivrer des autorisations pour toutes les opérations spatiales. Lancement, manœuvre dans l'espace, dès lors qu'une activité risque d'engager la responsabilité internationale de l'État. Mais le traité de l'espace va beaucoup plus loin, puisque son article 6 pose une règle unique en droit international, en prévoyant que l'État a la responsabilité de surveiller toutes les activités privées qui se déroulent dans l'espace extra-atmosphérique. Et si une entreprise privée ne respecte pas le droit de l'espace, l'État engage sa responsabilité directe internationale. C'est la raison pour laquelle l'État a l'obligation non seulement d'autoriser les entreprises privées à développer des activités dans l'espace, mais aussi qu'il a l'obligation de surveiller les activités spatiales privées, d'où le cadre réglementaire mis en place par les lois nationales en France. C'est la loi relative aux opérations spatiales de 2008 qui s'applique. Je termine avec une dernière série de risques, les risques portés à l'environnement. On en parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup des débris spatiaux. Il faut savoir qu'il n'existe pas de traités internationaux relatifs à la lutte contre les débris. Il existe en revanche une série de directives adoptées par les agences spatiales en 2002 visant à prévenir les débris dans l'espace extra-atmosphérique avec des mesures telles que la désorbitation des satellites situés en orbite basse afin qu'au contact de l'atmosphère, ils se consument. Et l'envoi des satellites géostationnaires sur une orbite cimetière afin de dégager donc cette orbite qui est une ressource rare et limitée. Par ailleurs, les directives relatives aux objets spatiaux interdisent les explosions volontaires dans l'espace extra-atmosphérique, ce qui est une réponse aux tests de missiles anti-satellites qui ont été conduits récemment par la Chine, la Russie ou l'Inde. Un autre principe concernant la protection de l'environnement spatial repose sur ce qu'on appelle la protection planétaire. Et c'est une règle qui découle du traité de l'espace et de l'accord sur la Lune de 1979. En vertu du principe de protection planétaire, lorsque les États explorent l'espace extra-atmosphérique, ils doivent éviter de contaminer l'espace par des substances terrestres. Et en cas de retour de mission spatiale sur Terre, les États doivent prendre toutes les mesures pour éviter la contamination de la Terre par des substances extraterrestres. Je voudrais quand même ajouter que l'espace invite au rêve et qu'il est très important de se projeter dans cet univers, d'oser se projeter dans cet univers. Je regrette beaucoup que l'Europe, à la différence des États-Unis, ait fait le choix d'avoir un discours raisonné sur l'espace. Un discours où on est obligé de justifier pourquoi on va dans l'espace, pourquoi on utilise le budget public pour les activités spatiales. Et je le regrette parce que notre jeunesse a besoin d'apprendre à rêver. Et l'espace est un formidable prétexte pour rêver. Et une jeunesse qui ne rêve pas, c'est une jeunesse qui n'innove pas. Et vous voyez, quand j'enseignais le droit de l'espace aux États-Unis, que je voyais tous ces jeunes qui me disaient « Quand est-ce qu'on va aller vivre dans l'espace? Quand est-ce qu'on va coloniser l'espace? Et le tourisme spatial, ça commence quand ?» Et je leur répondais « Mais non, l'espace, c'est pas ça. L'espace, c'est les satellites. L'espace, c'est les services qu'on fournit. » Je les regardais de haut en me disant « Mais franchement, les Américains, c'est des grands enfants. » Et quand je vois que ces jeunes que je prenais de haut sont maintenant aux côtés d'Elon Musk, de Jeff Bezos, et qu'ils sont en train de reprendre le rêve américain, le rêve du monde, le rêve de poursuivre cette merveilleuse aventure, Je me dis que j'étais bien bête, donc je vous invite à rêver en regardant les étoiles.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.